I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Christian Landès, Alexandre James avec Rémi Goriot. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Corinne Rondeau, Yasmine Yossi et Stéphane Correa pour une émission en public au Grand Palais à l'occasion de l'ouverture de la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC. À notre programme, Dorothy Lange, Politique du visible. C'est une exposition qui vient d'ouvrir au musée du Jeu de Paume. Géométrie du Sud, du Mexique à la Terre de Feu, exposition à voir à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et puis FIAC oblige, chacun des critiques proposera un choix de galerie présente au Grand Palais ou dans les lieux satellites de la FIAC. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le film 6 portraits XL d'Alain Cavalier qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Nous ouvrons cette dispute au Grand Palais avec une exposition qui se trouve à quelques centaines de mètres du lieu où nous nous trouvons, au Jeu de Paume, celle consacrée à la photographe Dorothy Lange, sous le titre « Politique du visible ». La photographe américaine, née en 1895 dans le New Jersey, morte en 1966 à San Francisco, son travail le plus connu reste celui sur les années de la Grande Dépression, mais le Jeu de Paume présente d'autres ensembles, peu vus, même pour certains jamais vus en France. Nous allons en parler. Les commissaires de cette exposition sont Drew Heath Johnson du musée d'Auckland, Alona Pardo pour le Barbican Art Gallery et Pia Viewing pour le Jeu de Paume.
Un jour, j'étais en train de travailler et des mots me sont venus. Les défavoriser et les déplacer. Puis le mot suivant a surgi, déraciné et impuissant. Puis cette expression qui est, je crois, utilisée par les sociologues, les blessés du travail. Enfin, une autre expression m'est venue à l'esprit, le dernier sursaut.
Eh oui, le son, l'ambiance, sous cette verrière du Grand Palais, il fait de plus en plus chaud. On entend un peu de monde, nous sommes installés en public et Yasmine Yossi tourne le dos au public. Sinon, ce n'était pas un enfant que nous avions engagé pour faire critique à la dispute, cette jolie marinière pour laisser croire qu'on fait travailler des mineurs dans l'émission.
Mais pas du tout.
Ce n'est pas le cas.
Un crapaud, parce qu'avec ma voix, là...
Vous venez de devenir majeur il y a assez peu de temps. Bon, parlons de Dorothy Lange et parlons-en tout d'abord avec Corinne Rondeau qui tend l'oreille pour entendre que je lui donne la parole.
Ah, d'accord. Je croyais que ce serait Yasmine qui...
Oui, c'est à vous, Corinne. C'est à vous.
D'accord.
C'est comme ça.
Ah, écoutez, moi j'aime beaucoup Dorothy Lange.
Dorothy Lange, moi, Lucie, voilà. Comme vous voulez.
Alors, sur la question de l'exposition, la scénographie, évidemment, il y a une grande partie qui est réservée à tout ce qui est de l'ordre de la crise, la dépression, la Grande Dépression. Et ça commence par une phrase de Dorothy Lange qui est les gens que ma vie a touchés. Et donc, je dois dire que cette phrase est quand même initiatique. Puisque en fait, elle va faire de la photographie de portrait jusque dans les années de la dépression. Quoi. Elle va sortir du studio pour la rue. Et puis en 33, je crois que c'est à peu près. Et puis petit à petit, évidemment, elle va ce qu'on vient d'entendre là, c'est y être, quoi, voilà. Et je dois dire que autant le catalogue montre tous les portraits qu'elle a fait, et on se dit que c'est bien que dans l'exposition ça n'y soit pas, parce que je trouve que ça y est.
Non, d'accord. Pas, moi, je l'ai
mais je trouve que c'est intéressant parce que ce qu'elle fait en termes de photographie d'atelier n'a rien à voir avec ce qu'elle va faire. Il y a une dimension du corps qu'elle va apporter immédiatement et cette exposition commence vraiment avec une chose assez simple. Par exemple, moi, la première photo sur laquelle je me suis arrêtée, c'est deux hommes qui dorment sur l'asphalte avec en arrière-plan une ligne de voiture garée. Et c'est un pays qui est à l'arrêt, les gens qui attendent. Ensuite, il y a une photographie de personnages qui... c'est les premières allocations de chômage. Et c'est un pays à l'arrêt. Alors, ce moment-là de saisir un pays qui était en plein bouleversement économique du fait de la Grande Guerre où les États-Unis sont mis. Et puis il y a eu une conjonction de catastrophes, hein. La monoculture, la sécheresse, enfin il y a
et
eu...
le krach boursier.
Et le krach boursier en 29 qui a vraiment clôturé cet apogée et qui était, je veux dire, quand le président Hoover dit 8 mois avant le krach boursier, il dit c'est la pleine prospérité, quoi. Hein. Je n'ai aucune crainte pour l'avenir de notre pays. Il reste plein d'espoir.
Un visionnaire.
Donc oui, un visionnaire. Donc il faut jamais faire trop confiance à ce qu'on dit. Et moi, je trouve que cette exposition, bon, elle a vraiment cette grande ligne sur la Grande Dépression. Je regrette qu'il y ait une disproportion sur des choses qu'on a rarement vues ou pas vues, qui sont par exemple les camps d'internement
des Américains d'origine japonaise. Bien de me corriger tout de suite, j'allais dire une énorme bêtise. Stéphane Coréa, premier regard sur cette exposition.
Alors oui, en effet, c'est une exposition qu'on va voir avec un préjugé. Le préjugé, comme pour certains très grands photographes, c'est une image iconique, célébrissime, qui est cette mère migrante de 1936 que tout le monde connaît, où on voit cette mère courage, le regard au loin, avec ses deux enfants contre elle, comme ça, qu'elle protège. Alors c'est vrai que c'est une œuvre, du coup, que cette photographie pourrait occulter. Et de fait, c'est une œuvre très longue, puisqu'elle commence à photographier en 1918, elle termine en 1965. Donc c'est quasiment une traversée du siècle, enfin en tout cas 50 ans de photographie. Et de fait, l'exposition en rend assez mal compte, puisque comme Corinne Rondeau vient de le dire, elle se concentre largement sur les photographies de la Dépression. En fait, elle s'articule principalement autour de trois séries, sans tellement montrer ce qui était avant et ce qu'il y a eu après, qu'on voit un peu mieux dans le catalogue. Et pour ma part, j'ai un peu regretté cette prédominance des photographies de la Dépression. On en reparlera, parce que ça pose la question de l'originalité, de la singularité de son regard à elle par rapport à cette école photographique qui est pléthorique.
Enfin, Yasmine aussi, premier regard.
Mais écoutez, moi, je partage pas tout à fait l'avis de Corinne. Je trouve que c'est une exposition qui est très intelligente dans la manière de... dans le sens où, effectivement, elle ne se focalise pas sur Migrant Mother, même s'il y a...
vous savez, avec votre accent, personne ne comprend ce que vous dites, Yasmine. La mère migrante, donc.
Voilà, hein, la mère migrante. Mais, et puis, il y a les autres séries. Je regrette qu'il n'y ait pas les portraits d'avant pour qu'on voit, justement, ce basculement à partir du moment où elle sort du studio. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette exposition, c'est qu'elle nous montre ce que c'est que la photographie documentaire. Et elle est, c'est vrai, à ce moment-là, avec Walker Evans, avec elle, à son apogée, à un tournant, vraiment un moment très très important. Et elle dit d'ailleurs, la photographie, attendez, j'essaie de retrouver mes notes, que la photographie documentaire n'est pas une photo factuelle, c'est une photo qui communique entièrement le sens et la portée de l'épisode ou de la circonstance de la situation. Et je trouve que c'est exactement ça qui est montré. Moi, j'ai un regret quand même, effectivement, comme on venait de le dire, c'est que les autres séries soient aussi peu développées. Et cette série sur les... la série sur les chantiers navals, elle est capitale parce que on sort de la Grande Dépression et la guerre, en fait, va permettre au pays de relancer l'économie. Et ces gens qu'on a vus à terre, tout d'un coup, on les voit reprendre espoir, revivre. Et il y a peu de photos, finalement, là-dessus. Idem pour les photographies d'Américains d'origine japonaise qui, en Californie, sont internés après Pearl Harbor. Et ça, on le regrette d'autant plus que ces photos, elles, c'est une commande de l'État, hein, de l'État fédéral. Et au lieu de photographier des traîtres, elles photographient des victimes. Du coup, ces photos ont été interdites jusqu'en 2006. Et là, on en a à peine une poignée, alors qu'on les connaît pas et qu'elles sont quand même très importantes et qu'elles sont toujours d'actualité.
Bon, alors on pourra dire que c'est bien de les avoir déjà.
Parce c'est très bien de les avoir.
Jamais vu. Dire que pour le, vous parlez de fait de référence au catalogue. Le catalogue, il a été fait pour l'expo du Barbican.
Du Barbican,
qui était plus importante en surface et en nombre de photographies montrées. Donc là, le choix qui est fait au Jeu de Paume, c'est aussi le choix de Pierre Viewing qui organise cette exposition et son étape parisienne, tout du moins. Mais c'est vrai que c'est quand même pas le nom le plus connu, même s'il y a une photographie connue. Je suis pas sûr que...
Il y en a plus qu'une.
Non,
c'est ce qu'on voit dans l'expo.
Est d'accord qu'il y en a plus qu'une, mais il y en a quand même une qui est iconique, comme le disait Stéphane Coréa, et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le nom de Dorothy Lange, ou comme vous voulez le prononcer, ne dit rien, et que cette exposition, elle a le mérite de montrer quand même une grande série, celle sur la dépression. Et moi, je trouve qu'il y a énormément de photos admirables dans cette série. Vraiment, on peut rester en arrêt longuement devant quasiment chacune des images. Et puis après, effectivement, on peut quand même avoir un aperçu de choses peu vues. Moi, la toute fin sur les avocats commis d'office, elle est quand même aussi tout à fait étonnante. Enfin, il y a quelque chose chez cette femme. Le mot d'empathie n'est pas le mot juste. Le mot, c'est celui, Corinne Rondeau. D'existence.
D'engagement.
Je trouve vraiment que ces photos sont absolument admirables parce que c'est quelqu'un qui ne vous demande pas de contempler une photographie.
Non.
Elle a un rapport à la présence des corps et on peut le comparer à Walker Levin qui ne fait pas du tout les mêmes photos alors qu'il fait le même travail qu'elle.
Absolument.
Elle a une manière de rendre l'existence à ces gens-là qui ne relève pas d'une empathie, les pauvres, etc.
L'empathie, ce n'est pas ça.
Bien sûr. Mais je dirais que la force de ces photographies sont à l'endroit de leur corps. Elle leur rend un corps parce que le dernier lieu où vous souffrez, c'est le corps. Et comme en plus, j'ai découvert, parce que je ne savais pas, elle a attrapé la polio à l'âge de 7 ans, elle a gardé un corps boitant. Et il y a quelque chose, je trouve, de ce rapport-là. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est cette manière dont elle avait de faire des photographies. Elle partait dès qu'on lui parlait. Mmh. Elle prenait, elle notait absolument tout ce que ces ouvriers, ces gens déportés, ces réfugiés de l'intérieur faisaient. Et il y a une force absolument admirable de ces corps qu'elle fait exister et qui n'est pas le cadre sec, net, précis, sans profondeur d'un Walker Evans qui a tout tiré de la poétique et de la littérature par rapport à elle. Et on voit bien que c'est un rapport entre l'image et le texte, puisqu'avec son mari Paul Taylor, ils ont travaillé le texte et l'image, puisqu'on ne peut pas voir d'image de Dorothy Lange sans texte. C'est ça qui est important. Et il y en a aussi un petit peu dans l'exposition, il ne faut pas le négliger.
Yasmine aussi.
Oui, c'est ça qui est très bien avec cette exposition, c'est qu'on est au plus près de sa pratique. Vraiment, toutes les légendes y sont, et de manière parfois exhaustive. Il montre aussi les planches contact. Et ça, c'est très bien pour voir comment elles travaillent. On peut d'ailleurs les admirer avec une loupe. Et voir, par exemple, cette Migrant Mother, comment elle arrive à la photo, les photos qu'elle fait juste avant, et puis ensuite, comment elle va la garder, comment elle va la recadrer.
Comment elle se rapproche.
Et combien de photos elle fait. Elle n'en fait pas tant que ça. Mais ça va à l'essentiel. Et c'est une photo qui est engagée, qui est vraiment engagée. Elle est au plus près de ces gens-là. C'est jamais misérabiliste. Elle les montre, quand elle montre les gens à terre, elle ne montre pas les visages. Elle ne montre jamais les visages. Mais quand elle les montre, après, elle les montre qu'ils reconquérissent l'espace, qu'ils reconquérissent. Enfin, c'est vraiment une histoire de corps, comme dit Corinne très justement.
Stéphane Goyard.
Alors, moi, j'étais moins sensible à cet aspect-là. En revanche, je trouve que l'exposition montre très bien un certain nombre de questions qui sont importantes. Par exemple, pour ce qui est de cette photographie sociale documentaire, je trouve qu'il y a des spécificités y compris dans le process. Par exemple, elle ne photographie jamais les gens à l'improviste, contre leur gré, etc. Mais finalement, c'est une photographie de collaboration, si on veut le dire sans connotation négative. C'est-à-dire qu'elle collabore avec ses sujets pour rendre finalement ce qu'elle veut rendre des événements auxquels elle assiste. Mais c'est aussi une photographie de collaboration, parce que comme on l'a dit, quasiment toujours elle est en mission du gouvernement. Ce qui effectivement pose aussi quand même certains problèmes. Alors je veux bien qu'ensuite des photos soient censurées, que sa photographie soit si humaniste, que effectivement ça aille à l'encontre de ce que le gouvernement voulait prouver. Mais il me semble quand même que ça pose effectivement des questions quand même de la propagande. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé par rapport au contexte, effectivement, parce qu'elle n'est pas la seule photographe à avoir photographié notamment ces scènes de la Grande Dépression, etc., c'est celle vraiment littéralement du cliché, parce que finalement beaucoup de ces scènes, on les a déjà dans les yeux et on a l'impression de les revoir. Alors peut-être avec une forme légèrement différente, mais en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est uniquement parce que finalement les artistes hommes qui ont photographié les mêmes choses sont passés avant elle et qu'on les a beaucoup plus vus. En réalité, l'histoire de la photo aurait pu être écrite du point de vue de Dorothea Lange, alors que ça a été
avant
du côté de Walker Evans, de Ben Chan, etc. Voilà. Et ça, donc, je me dis, finalement, c'est injuste pour elle qu'elle arrive après, et que malheureusement pour elle, elle arrive après dans notre regard. Il faut arriver, comme Corinne Rondeau et Yasmine Youssi, à se laver le regard de ce qu'on connaît de l'histoire de la photographie de cette période pour en percevoir l'originalité.
Ouais,
Elle avait deux appareils photo, en fait. Il n'y a pas que les photos de propagande. À chaque fois, elle avait deux appareils avec elle. Donc, il y avait une grande partie qu'elle gardait. Mais effectivement, et c'est des photos qui ont atteint leur but pour les photos de propagande, puisque le gouvernement a décidé de créer des camps d'accueil, en fait, de ces migrants une fois après avoir vu ces photos. Et c'est vraiment les siennes qui ont eu cette influence beaucoup plus que celle de Walker Evans.
Dire aussi, vous parlez de l'importance du texte et sans parler seulement des textes de Paul Taylor, parce que ça c'est une rencontre vraiment essentielle dans la vie de Dorothy Lange, c'est Le fait que qu'il y ait là des légendes, qui soient parfois longues, on peut penser à ce qu'exigeait David Goldblatt, il avait bien raison que les légendes soient absolument toujours stipulées en entier. Alors ça n'a pas toujours été le cas pour la pauvre Dorothy Lange, peut-être pour les raisons qu'évoquait Stéphane Coréard, de moindre considération. Et là, c'est aussi une chose importante que d'avoir, parfois c'est peu de choses, effectivement, parce que les gens à qui elle parle lui donnent... La mère migrante ne lui donne pas son nom, elle lui donne son âge, voilà. Mais c'est à peu près tout ce qu'elle peut mettre. Par contre, des fois, il est vraiment important, hein, j'invite vraiment les visiteurs, on se plaint souvent des cartels. Oui. Là, c'est des informations qui sont importantes pour sentir, ressentir et comprendre un peu mieux le contexte. Vous êtes d'accord?
Oui, quand ce ne sont pas... Moi, je suis tout à fait d'accord, vraiment, pour ce travail où on voit ce que c'est que le travail documentaire, une photographie documentaire. Et ce qu'elle vise à travers, c'est... Et quand il n'y a pas les témoignages, il y a des explications qui sont données de la part des commissaires, et c'est tout aussi important. Vraiment, autant c'est vrai que ça peut énerver d'avoir 3 heures de lire un doctorat d'État en guise de cartel, mais là, ça en vaut vraiment la peine.
Corinne Rondeau.
Oui, moi je regrette tout de même qu'il n'y ait pas les textes qu'elle a appris pendant et qu'on n'ait pas ça à disposition. Je trouve que c'est... cette femme qui est en train de faire une photo s'interrompt pendant qu'elle fait une photo parce qu'on lui parle. Et c'est une manière de penser son corps en faisant de la photo. Je trouve ça formidable. Et cette femme quand même... et moi je regrette vraiment sur l'exposition qu'il n'y ait pas eu plus sur, comme vous l'avez dit, l'internement des Américains d'origine japonaise et effectivement des chantiers navals. Mmh. Ouais. Parce que c'est la question de la chute de la dimension d'industrialisation, de puissance qui chute, cette manière d'être réfugiée à l'intérieur et de, après Pearl Harbor, de mettre en internement. Elle s'est battue. Ces photographies ont permis, en fait, au gouvernement de faire des camps pour permettre une vie moins misérable à ces Américains qui étaient, les ouvriers de la puissance américaine. Et je trouve qu'il y aurait eu une belle articulation de faire camp. La photo qui... C'est très rare qu'un artiste puisse produire un effet politique. Ah, et oui. Comme le disait Sekula, l'un de Sekula, hein, il faudrait quand même évaluer la question de la relation entre la forme et le politique. C'est très rare quand ça arrive. C'est même jamais. Ça n'arrive jamais. Et là, cette femme arrive avec son mari de Taylor. Ils arrivent à, produire un effet. Il y a ce camp d'internement. Elle fait de la photo sur son pays, crée de l'internement. C'est de la folie. Cette femme ne sort pas de son territoire et en fait, elle photographie tout ce qui est de l'ordre de l'injustice absolue. Et je trouve qu'il y avait une belle histoire de raconter la puissance industrielle, la chute et le renouveau par les chantiers navals.
Stéphane Coréard.
Tout à fait d'accord. J'en remets une couche sur cette série et notamment parce qu'on a beaucoup parlé des portraits, mais il y a une photographie de cette série qui est magnifique. C'est une façade de magasin et où le propriétaire a rajouté cette grosse banderole avec écrit « I am an American » en lettres majuscules, et je trouve que ça résume tout ce drame de ces gens déplacés qui n'étaient plus considérés comme des Américains, alors même qu'ils s'étaient intégrés pour un événement auquel ils n'étaient absolument pas liés et pour lequel ils ne pouvaient pas être tenus responsables.
Allez, dernier mot.
Et on est d'autant plus frustrés que, par exemple, pour les chantiers navals, le texte qu'il y a au mur annonce des choses qu'on meurt de voir, c'est-à-dire, par exemple, comment finalement, même dans ces chantiers où tout va mieux, où les gens retrouvent du travail, les Noirs sont vraiment les laissés pour compte, et il y a une photo qui le montre, alors qu'on a l'impression qu'à lire le texte, que c'est... alors, bien sûr, il y a le catalogue, mais c'est pas tout le monde qui peut acheter le catalogue, c'est ce que je dis toujours. Et là, c'est mon grand regret, quoi, de ne pas avoir pu... de ne pas les voir directement, ces photos-là.
On en voit quelques-unes quand même, et ça c'est heureux au musée des Jeux de Paume. Quelques-unes, je plaisante, il y en a quand même un certain nombre. De très beaux tirages, il y en a un certain nombre qui sont le fait de Dorothy Lange, je crois, ou qui sont en tout cas supervisés par elle d'époque. L'exposition s'appelle Politique du visible, elle est ouverte jusqu'au 27 janvier aux Jeux de Paume à Paris. Et donc ce catalogue édité à l'occasion de l'exposition précédemment au Barbican, donc c'est... Voici, il y a beaucoup de différences. Le catalogue est coédité par le Jeu de Paume, Barbican et Prestel. À suivre dans la dispute, Géométrie du Sud, c'était la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et puis FIAC oblige, nos critiques vont nous proposer un choix de galerie présente au Grand Palais pendant que Yasmine Youssi est en train de tousser très très fort. Est-ce que vous avez de l'eau? Oui, vous avez de l'eau. Tout va bien, buvez un verre.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Bon, et Stéphane Coréard lui fait les textos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dès qu'on sort, ils sont à la FIAC, on ne les tient plus. sauf Corinne Rondeau, qui est très sage. Vous aurez un bon point, et au bout de 10 bons points...
Je fais une émission.
Ah, ce serait pas mal, ça. Vous présentez la dispute ? Ouf ! Allez.
On sait jamais.
On sait jamais. Pour l'instant, nous sommes en direct et en public de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, ici au Grand Palais, pour parler à présent de Géométrie Sud, du Mexique à la Terre de Feu, exposition qui vient de s'ouvrir à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Corinne Rondeau dit bonjour à beaucoup de gens, donc j'enlève le bon point. C'est boulevard Raspail à Paris. Les commissaires sont Hervé Chandès, Alexis Fabry, Marie Pérennes et Léane Sacramon, qui ont rassemblé plus de 250 œuvres, 70 artistes, de la période précolombienne jusqu'aux productions contemporaines, art populaire ou art abstrait, céramique, peinture, sculpture, architecture, vannerie. Bref, un panorama de l'abstraction géométrique en Amérique latine.
Quand os urubus voam baixo, é sinal que o próximo passo vem do desejo de querer devorar. Escraviza o movimento, faz do lobo o seu rebento. Quem vir bater vai cansar. Gatas como essa já vi muitas por aí, mas com ela é diferente. Eu quero repetir que o seu cabelo é longo, mas não é liso. Que o seu sorriso é raro, mas vem com tudo. Tem um olhar que prende e tem um jeito. Com traços de preto, me dá sua mão. Vou mandar pela cidade.
Ah, voilà, ça fait un peu de bien de voir Hélène Delprat nager dans la FIAC. Sur cette musique qui vient d'Amérique latine. Je la vois une fois par an, c'est à la FIAC. Hein. Elle vient vous dire bonjour, Corinne Rondeau, généralement. Et j'aime beaucoup Hélène Delprat. Enfin, son travail, je ne la connais pas, elle, hélas. Bon, dernière... deuxième... Fran Boom. Géométrie Sud, c'est à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Reconcentrons-nous et mettez vos lunettes, Stéphane Coréard, parce qu'il prétend qu'on n'y voit pas assez pour lire ses notes.
Merci, mon cher Arnaud, de m'interroger pendant qu'il fait encore un peu jour dans le Grand Palais. En effet, écoutez, je vous le dis tout de suite, c'est une merveille, cette exposition.
D'accord.
Donc, il faut absolument se précipiter. Heureusement, elle vient de commencer. On en a pour un certain temps. Ouais. Mais je dois
dire... Jusqu'au 24 février.
Voilà, je dois dire que j'ai quand même un énorme regret. C'est qu'avec la fermeture de la Maison Rouge, qui est représentée ici dans le public, je crois que c'est la Fondation Cartier le dernier lieu où on peut voir ce genre d'exposition d'une telle sensibilité, d'une telle profondeur. En même temps d'une grande légèreté transversale. C'est une exposition qui mêle l'art moderne, l'art contemporain, la photographie, l'architecture, l'art primitif, vous l'avez dit, et l'art populaire, l'ethnographie. Il y a 6000 ans d'histoire, 10 000 kilomètres. Arrêtez de me bouger le micro.
Mais non, mais si vous bougez, je vais bouger le micro. Donc mettez-vous en face de votre micro, Stéphane Coréa.
Donc comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est un voyage sur les traces de géométrie au pluriel, comme le préviennent les commissaires dans le catalogue, en marge du discours classique de l'histoire de l'art, notamment dans les esthétiques populaires et indigènes. Ce qui est très beau, évidemment, c'est que c'est aussi une vraie vision précise, qui est celle de la Fondation Cartier, de ce travail qu'elle doit faire. Ils l'ont fait aussi avec Beauté Congo, toujours avec une équipe, comme ça, un état d'esprit, ce qu'ils appellent dans le catalogue l'esprit de suite. C'est une manière à bas bruit de vraiment intervenir au cœur de l'histoire de l'art. Tout commence avec l'architecture, dans cette architecture si belle, si réussie de Jean Nouvel, avec deux propositions architecturales diamétralement opposées, mais toutes les deux, je trouve, formidables. Au rez-de-chaussée, à gauche, il y a une structure architectonique complexe et totalement simple, lumineuse, d'un cabinet paraguayen, Solano Benitez et Gloria Cabral, qui ont eu Lion d'Or à la Biennale d'Architecture de Venise en 2016. C'est comme un château de cartes combinatoire, à la fois simple, incroyablement complexe. On se demande comment ça tient, c'est extrêmement beau, c'est des fragments de briques qui tiennent ensemble avec du ciment, c'est presque rien, c'est monumental, ça fait 6 mètres par 8.
Oui, ils font des bâtiments comme ça en plus.
Oui, absolument, c'est magnifique. Et de l'autre côté, c'est complètement l'inverse, c'est une salle des fêtes reconstituée, outrageusement colorée, lumineuse, qui est due à Freddy Mamani, un architecte bolivien, qui est issu de la communauté Aymara et qui développe à El Alto une esthétique totalement néo-kitsch, incroyable, une esthétique de parvenu au service d'ailleurs des nouveaux riches de sa communauté qui viennent s'installer en ville avec ses bâtiments complètement hallucinants, de couleurs, de formes, on dirait des gros gâteaux, d'ailleurs y compris dans la couleur des pâtisseries anglaises.
C'est vrai,
anglaises.
On a très envie d'aller à El Alto maintenant.
Ah non, mais c'est hallucinant. Et en même temps, avec une vraie rationalité économique, parce qu'il explique très bien que ces gens qui ont fait un peu une petite fortune ont besoin que ça tourne. Donc, le rez-de-chaussée, c'est des commerces. Au-dessus, il y a la salle des fêtes, très importante, où la communauté peut se retrouver. C'est ce qui est reconstitué à la Fondation Cartier. Ensuite, un ou deux étages d'appartements à louer pour assurer le rapport de l'ensemble et financer l'immeuble. Et puis, en haut, c'est sublime, ces petits chalets, c'est des sortes de petits pavillons de Ça me suffit qui sont posés au-dessus et qui sont des Ça me suffit de luxe.
Oui, de luxe,
ça ressemble un peu à chez vous, Arnaud, trois étages,
vrai,
600
ça.
Mètres carrés, des piscines un peu partout,
or,
etc., des robinets
en or. Mini-golf.
Et c'est une merveille, on est plongé là-dedans, il y a un film fantastique, les films sont très très intéressants dans cette expo, qui est vraiment remarquable.
Bon, on a fait un peu le rez-de-chaussée, mais pas complètement. Vous avez vu, il a oublié toute une partie du rez-de-chaussée, Stéphane Correa. Ça tombe bien, mais il y a beaucoup de choses à dire. Yasmine aussi, pour la Fondation Cartier de pour l'art contemporain.
Moi, j'ai eu absolument un coup de cœur, comme Stéphane, pour cette exposition que je trouve réjouissante à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle est vraiment dans la grande tradition des expositions de la Fondation Cartier qui nous font découvrir des scènes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. C'est eux qui nous ont fait découvrir la photographie africaine, des artistes japonais qu'on ne connaissait pas il y a des années. Et là, vraiment, on renoue avec ça. Ce qui m'a aussi réjoui et ce qui m'a vraiment provoqué un véritable coup de cœur pour cette exposition, c'est que elle bouscule nos certitudes. Dans le sens où, à un moment où vraiment l'art contemporain est ultra mondialisé, où on trouve les mêmes sujets, les mêmes thèmes, parfois les mêmes formes en Occident, comme en Chine, comme en Afrique, là, tout d'un coup, il y a une unité autour de la géométrie qui peut paraître ringard pour certains, qui est héritée de l'art précolombien, et c'est sur l'ensemble du continent qu'on voit ça. Du coup, les œuvres sont indatables. C'est-à-dire que vous les regardez, vous ne savez pas. Tout d'un coup, il y en a une qui date de 3500 avant Jésus-Christ, il y en a une qui a été faite hier. Et vous ne savez pas vraiment les dater. De même que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas les voir en disant, bah tiens, ça vient de là ou ça. C'est un continent. On voit vraiment l'esthétique d'un continent. Et on se rend compte même que, en regardant les noms, il y a des artistes qui sont, on comprend que ce sont des, ils proviennent d'une immigration du XXe siècle. Assez récent, avec des noms germains, voilà, et que ceux-là aussi ont adopté cette esthétique-là, ces motifs géométriques qui sont propres vraiment à l'Amérique du Sud précolombienne. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est ce truc de Abba, finalement, qui n'a rien à voir avec l'art mondialisé qu'on peut connaître, qu'on voit un peu à la FIAC. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai été aussi vraiment séduite par les différentes techniques, ce que disait Stéphane à l'instant, comment les recherches sur la technique, sur les différentes techniques, sur les photos par exemple. Il y en a un qui s'appelle Romulo Aguirre ou Romulo Aguirre,
oui, quelque chose comme ça.
Voilà, qui a tiré une photo complètement abstraite sur du papier d'or. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Johanna Caille est juste à côté. Elle reprend des photos anonymes et elle va les gratter jusqu'à obtenir des formes géométriques. Et tout cela, il y a de la céramique aussi. Je crois que c'est Gustavo Pérez, hein. Je crois que c'est ça, mais j'ai peur d'écorner les.
Oui, voilà. C'est ça, on confirme. 100%.
Elles sont magnifiques, ces céramiques-là, et elles sont très dessinées. À la lame, vraiment, on voit. Et moi, mon coup de cœur, vraiment mon coup de cœur, ça a été au premier étage, Gego, la vénézuélienne,
qui était une.
Au rez-de-chaussée, pardon. Gego, la vénézuélienne. Là encore, c'est une jeune femme qui était née en Allemagne. Elle avait fui l'Allemagne nazie. Le Venezuela est vraiment une très grande terre d'accueil pour l'immigration juive. Et elle réalise des sculptures comme ça à la tige de fer. En fait, quand elles sont présentées, j'ai eu la chance de les voir rideau fermé, rideau baissé, rideau ouvert. Et quand les rideaux sont ouverts, ça apparaît comme des esquisses, des traits de crayon comme ça dans l'espace. C'est magnifique, vraiment magnifique.
Corinne Rondeau, qu'on n'a pas encore entendu sur cette exposition Géométrie du Sud, la Fondation Cartier pour l'art contemporain.
Oui, c'est formidable.
Alors, vous avez le droit de dire autre chose,
non.
Si vous le pensez.
Non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça assez formidable parce que non seulement le parvenu d'architecte, il y a un film. Non, mais parce que aussi.
L'architecte pour parvenu.
Pour moi, c'est. Non, mais pas que. C'est un architecte ouvrier. Je veux dire, il a un discours qui n'est pas celui d'un architecte.
Il est formidable.
Et le documentaire qui passe sur lui est un documentaire qui n'a aucune complaisance à son égard sur quelle place il occupe dans l'architecture. Je trouve ça formidable. Je trouve. Aussi formidable de passer de l'autre côté entre cette salle des fêtes qui n'est pas une salle des fêtes pour nous en Occident, et c'est très bien parce qu'on a le cul assis pour regarder ce film, alors qu'en fait là-bas on y danse, parce que là on n'y danse pas, peut-être qu'il y aura des soirées à la Fondation Cartier. Et toute cette architecture dont vous avez parlé, notamment Egego, d'ouverture, c'est une exposition sur le vide en fait. C'est à la fois architectonique, c'est à la fois de la structure. Vous avez parlé de géométrie, c'est le titre de l'exposition. On a l'impression que l'Europe est arrivée là. Et en fait, elle est maligne, cette exposition. Parce que quand on arrive dans la dernière salle et qu'on voit que cette géométrie, elle est sur le corps des tribus indigènes, on se dit, mais en fait, l'universalité, c'est la géométrie. Et ce continent est en train juste de reprendre ce qu'elle a déjà fait à travers les photographies de Michu Picchu.
Vous avez moins d'accent en
vous
espagnol.
Avez vu Machu Picchu, voilà, de bien. Martin Chambin, par exemple. Chambin, je ne sais pas comment il faut le dire. Bon, bref. Et c'est entre ces photographies qui sont faites aussi d'une architecture contemporaine où il y a une traversée de lumière qui produit encore de l'architecture, de la structure géométrique, et Gego qui est pour moi la révélation absolue. Oui. Non seulement ça fait peut-être du trait, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive à faire tenir des choses qui ne tiennent pas debout.
Absolument.
Et Thomas Saraceno, il va se rhabiller, voyez-vous.
Là, c'est l'exposition, c'est... il va pas être Tokyo, on va en parler.
Oui, non, mais peu importe, je ne l'ai pas vu.
Mais non, mais il faut qu'on explique aux auditeurs de quoi vous parlez,
oui,
Corinne.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est la question de la, je dirais, du tressage ou du tissage. Comment, avec des fils très fins, on va fabriquer. Alors, elle n'a pas d'araignée, elle, mais c'est une femme araignée. Et qui arrive. Alors, c'est elle est de formation ingénieure. Et elle arrive à faire tenir une tension en pliant des bouts d'acier. Non, de. Oui, c'est de l'acier fin et de l'aluminium. Et en fait, c'est souple. Mais ce qu'il y a à regarder, c'est ce qui est. C'est le vide. Et c'est absolument admirable. C'est admirable comme du Mondrian. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les traits, il faut regarder ce que ça contient comme espace. Et elle fait tenir une structure qui est de l'espace dans l'espace. Je trouve ça admirable. Et quand on a l'architecture à côté de briques, ça marche pareil. Et c'est en bas. Et en bas, vous avez Olga de Amaral.
Oui.
Et vous avez ces fils de couleurs qui sont à la fois de la sculpture, mais du volume. Et la couleur dans du volume. Et vous avez de la projection, ça refait de la géométrie au sol. Et tout autour, vous avez l'art tribal, l'art indigène, et tout ça est intemporel. C'est une merveille absolue. Et quand vous avez un hommage to the square de Joseph Albers, qui lui-même était un fan avec sa femme de l'art mexicain, mais aussi de l'art andin, hein, et ben on retrouve tout ça. C'est-à-dire que, et quand on voit les tableaux que moi j'ai adorés de César Paternostro, il travaille sur le bord. Et ce mec avait créé en 70, puisqu'il est historien aussi, un rapport entre le constructivisme russe et l'art andin. Je trouve ça génial.
Bon, bah ça a été crescendo. Alors, vous voulez en remettre une couche, comme vous dites, Stéphane Coréard?
Effectivement, ce qui est passionnant dans cette exposition, c'est qu'elle noie complètement la question du modernisme, à la fois dans le temps et dans l'espace. Elle la déborde, elle la fait exploser. C'est vrai qu'il y a Albers, un peu comme référence tutélaire, mais lui-même très inspiré, effectivement, par l'art mexicain. Mais on est au-delà de ça. Et c'est une exposition d'une formidable, je trouve, complexité et subtilité, hyper bien servi par la scénographie, d'après moi, quand on reste longtemps dans l'exposition. Et je vous conseille d'ailleurs d'y aller de jour et de nuit, parce que c'est pas la même exposition qu'on voit. Et la scénographie, notamment dans la première salle en bas, où il y a ces 5-6 messes de 3 mètres par 3, avec chacune portant un tableau de grand format de Carmen Herrera. Et il y a trois murs qui sont hyper clairs. Au début, on comprend pas, il y a des choses de toutes les époques, de tous les styles, de tous les matériaux. Mais il y a des bijoux, des choses qu'on découvre effectivement incroyables. Il y a notamment une éblouissante série de 5 petit tableautin des années 50 d'Alfredo Volpi, qui au départ s'inspire de façades de bâtiments pour finir par s'abstraire complètement dans une espèce de radicalité, mais qui reste tellement sensible. Magnifique, c'est des tableaux d'une poésie et d'une beauté saisissante.
Bon, il n'y a aucune critique à faire, Yasmine aussi.
Non, ne cherchez pas.
C'est vrai?
Bon. Vraiment, ne cherchez pas. Non, il faut aller la voir. À part Miguel Rio Branco, je n'en connaissais aucun. Et je suis allée de découverte en découverte, et effectivement Olga Amaral, c'est superbe, c'est de la couleur qui tout d'un coup prend forme dans l'espace,
c'est du volume, et c'est de la sculpture, et c'est de la couleur, ouais. Et c'est de la peinture, et c'est complètement physique,
oui.
Mais il y a Léon Ferrari, vous connaissez Léon Ferrari?
Oui, Léon Ferrari, oui, voilà. Je l'avais découvert.
Et Agustín Jiménez, vous connaissez Agustín Jiménez?
Agustín.
Non, il y a énormément de choses. Je pense qu'en bas, c'est un peu compliqué quand même pour introduire un petit bémol sur le rez-de-chaussée.
Il faut rester, il faut rester un certain temps.
Parce que, comme c'est une scénographie très ouverte, ce qui au final est plutôt une bonne chose, parce que ça permet de voir quantité d'œuvres et d'artistes en même temps, et de se dire, tiens, cette ligne-là, je la reconnais là. Au départ, elle peut paraître un peu compliquée.
Tout à fait d'accord, il faut y rester au moins 20 minutes dans la salle du bas, je chronométrerai.
Au moins. Donc Stéphane Coréard sera à l'entrée de la salle du bas, tant pis, vous ne verrez pas la lumière, c'est tant pis pour
Puis
vous.
Il y a Claude Lévi-Strauss aussi qui apparaît avec ses photos de Brésiliens. Alors, j'ai très peur de mal prononcer d'une tribu.
Chacun son tour.
Oui. Kadiveu, je ne sais pas. Et qui montre toute la filiation. Et elles nous éclairent aussi beaucoup, ces photos-là de Claude Lévi-Strauss pour le parcours aussi.
Oui, en précisant quand même, vous disiez tout à l'heure à quel point les artistes étaient imprégnés par cet art précolombien, cette géométrie. Ceux qu'on voit dans l'exposition sont quand même sur ce critère-là. Ce n'est pas tous les artistes sud-américains qui font une production de cette nature. Non, mais il y en a beaucoup. On espère bien qu'il y ait beaucoup plus d'artistes en Amérique du Sud que ceux présentés à la Fondation Cartier. Stéphane Correa.
Oui, ce que je voudrais juste saluer pour finir, c'est que c'est une fondation d'art contemporain et ils ont à cœur de montrer essentiellement de l'art contemporain. Donc c'est vrai qu'il y a des œuvres d'art primitif, etc. Mais par exemple, pour tout l'art populaire, ils ont privilégié à chaque fois des artistes d'aujourd'hui. Mmh. Et ce qui est passionnant, c'est qu'ils montrent des choses de très très grande qualité. Notamment, il y a deux dessins que j'ai adorés de Marcos Ortiz qui représente les arbres autour de chez lui. Et on a l'impression qu'il en saisit vraiment la structure géométrique intrinsèque. C'est absolument bouleversant et sublime. C'est un artiste qui est vraiment sans formation, qui vit dans son village, mais ils ont vraiment sorti comme ça un certain nombre d'artistes, y compris des productions artisanales qui sont vraiment sublimes.
Bon, et puis si vous voulez en savoir déjà un peu plus, il y a une web-série sur les coulisses de l'exposition. Ça, c'est à voir en ligne en se rendant sur le site fondation.cartier.com, ce qui vous permettra déjà d'avoir quelques vues de El Alto et de cette architecture, et c'est absolument invraisemblable. Vous vouliez ajouter?
Non, je voulais juste dire que le livret d'exposition est très bien fait aussi.
Eh oui, il faut prendre le temps.
Il faut prendre le temps
peut-être d'assimiler quelques notions
vraiment,
avant.
Moi, je pense que c'est la peine.
Une visite
qui est donnée gratuitement.
Hein. Oui, c'est une visite qui se prépare, me semble-t-il, c'est ce que je voulais signifier. Il y a un très grand catalogue, vous avez eu l'occasion de jeter un œil les uns les autres.
Oui, le catalogue, je trouvais, est très intéressant parce qu'il y a des textes de théoriciens justement de cette question précise qui n'ont jamais été traduits en français et qui m'ont l'air d'être des textes de très grande qualité.
Corinne Rondeau.
Je confirme, oui. Et puis il y a des textes des artistes eux-mêmes. Non, il est très bien fait et puis il est... Non, il est très bien fait, enfin je ne vois pas...
Confirme.
Ouais.
Aucun bémol.
Aucun.
Courez à voir Géométrie Sud, du Mexique à la Terre de Feu. C'est une exposition qui est ouverte jusqu'au 24 février à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Beau catalogue édité par les éditions, justement, de la Fondation Cartier.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Et une dernière séquence un peu particulière ce soir, puisqu'elle va être composée de différents focus, comme on dit, sur des galeries ici présentes au Grand Palais, parce qu'au cas où on n'aurait pas remarqué, nous ne sommes pas en studio à la maison de la radio. Alors il y aurait vraiment beaucoup de monde dans les couloirs et ça ferait du bruit. Nous sommes au Grand Palais, nous sommes à la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, qui ouvre ses portes au public demain et qui reste ouverte jusqu'à dimanche, me semble-t-il. Alors, Yasmine aussi, vous me direz quand vous préférez que ce soit à vous, parce que comme vous êtes malade, que vous avez des quintes de toux, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment? C'est le moment
ça
pour
va.
Vous
ouais.
Ça va.
Ça va.
Ça va. Alors,
ça
vous
va.
Avez choisi quelle galerie parmi les... Vous savez le nombre de galeries qu'il y a dans cette foire?
Beaucoup.
D'accord, c'est une assez bonne réponse. D'accord, il y en a beaucoup. Et donc parmi ces beaucoup, Yasmine,
et
vous
parmi
avez choisi.
Ces beaucoup, je voudrais juste dire un mot peut-être sur cette édition, qui est une très bonne édition. Moi, j'ai qu'un tout petit regret.
Vous avez passé combien d'heures là ?
J'ai dû passer 3-4 heures là.
Bon.
J'ai un tout petit regret quand même, mais vraiment c'est une très bonne édition, hein, avec de très très belles œuvres, peu de déchets, peu d'œuvres décoratives, si ce n'est quelques grands beaucoup de grands formats dont on peut se passer. Mais il n'y a qu'une chose, c'est qu'on reste un peu dans l'entre-soi. C'est-à-dire que j'ai eu beau chercher des artistes africains, j'ai eu beau chercher des artistes du monde arabe. Il y avait des galeries les années précédentes comme Sfer Sfemler qui venait du Liban, qui présentait vraiment des artistes très très intéressants. Je n'en ai pas trouvé à part une galerie tunisienne mais qui n'est pas très intéressante. Et les Africains, je n'en ai pas vu non plus, sauf chez Perrotin, un artiste sud-africain. Malheureusement, enfin un portrait assez beau, malheureusement gâché par une veste monogrammée un peu tape à l'œil. Voilà, j'ai juste ce petit regret quand même qui est assez fort, ce qui veut dire que finalement... Les grands artistes africains n'ont pas réussi à percer les grandes galeries, quoi, toujours pas.
Vous êtes sûr d'avoir tout vu, hein, parce que si vous dites ça, j'ai tout vu.
Bon, j'ai tout vu et je les cherche encore. Hein.
Si vous voyez à la FIAC des artistes venant d'Afrique, notamment, du monde arabe, faites suivre.
Peut-être que je toussais trop et que je suis passé juste à ce moment-là où j'ai le moment où je toussais, bon, mais non, vraiment j'ai cherché.
Alors,
sinon j'ai dans votre dos justement Yasmine qui.
Il y a quelque chose à vous dire. La bonne blague de Corinne Rondeau. Comme Yasmine aussi tourne le dos au public. Vous êtes sûr de vouloir enchaîner ? Vous avez encore assez
oui,
de...
Oui, non, je vais enchaîner. Non, j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur pour l'américaine J.D. Feo que j'ai vue à la galerie David Elbaz, qui est une galerie parisienne qui est sur Paris et sur Dallas. Et il présente deux artistes qui sont en dialogue. C'est J.D. Feo et Sheila Hicks, dont on avait parlé à l'antenne... l'année dernière, quand elle avait eu sa rétrospective. Moi, je connaissais pas ce travail-là. Enfin, je ne connaissais pas son travail. J'ai pas eu la chance. Je suis passée complètement à côté de l'exposition qui lui a été consacrée au Consortium de Dijon en 2017, où ses œuvres dialoguaient avec celles d'artistes contemporains. Et son, alors
il faut aller au Consortium à Dijon. Vous savez, Yasmine,
c'est très mal.
Bon.
Son œuvre la plus célèbre, en fait, c'est The Rose, qui appartient au Whitney. Qui vient de la restaurer d'ailleurs. À la FIAC, on nous présente, c'est une œuvre qui date de début des années 60. À la FIAC, David Elbaz lui présente des œuvres des tout débuts, quand elle sortait de l'école de Berkeley, au début des années 50, 52, 54. Elle reçoit une bourse pour aller à Florence. Elle vient en Europe, elle passe 6 mois à Florence. Et elle réalise à ce moment-là ces tempéras, des tempéras sur papier qu'on peut voir ici, qui sont absolument éblouissantes, pour lesquelles elle fabrique elle-même sa tempéra. Et ce qui frappe dans ses œuvres abstraites...
Alors c'est quoi une tempéra ? Ah oui, il faut donner des explications, Yasmine. Tousser. Ah voilà, tout d'un coup, voilà, vous posez une question, vous toussez. Bon, je meuble un petit peu pendant que vous toussez.
Des œuvres sur papier. Je ne vais pas vous en dire plus.
D'accord.
Elle préparait elle-même ses pigments, en tout cas, elle préparait. C'est magnifique. Et ce qui frappe dans ses œuvres abstraites, outre leur force, l'énergie, la vigueur qui s'en dégage, vraiment, ce sont les couleurs somptueuses. Ses œuvres suivantes vont être plus dans les noirs, dans les blancs, dans les gris. Là, on a des jaunes qui éclairent les tableaux, un orange qui se fraye un chemin derrière le noir pour illuminer. Il y en a vraiment une poignée. Mais qui moi m'ont vraiment ébloui. Il y en a une, on soupçonne d'avoir été inspirée par les grottes de Lascaux, marron et noir. Enfin voilà, pour moi c'est une découverte et je vous engage vivement à passer par la galerie de David Elbaz.
Pour voir, comment vous l'appelez?
J. Di Feo.
Di Feo.
Di Feo.
D-E plus loin, F-E-O. Oh. Corinne Rondeau, est-ce que ce ne serait pas le moment de nous dévoiler votre choix dans cette FIAC, paraît-il, de bonne qualité sans
Alors, je ne peux pas vous le dire, parce que vous savez que c'est vraiment le lieu où je ne vais pas, la FIAC, parce que je déteste ces lieux de foires internationales d'art contemporain, enfin, les foires internationales en général, mais j'ai trouvé ma galerie, Michel Journiac, le stand de la galerie Christophe Gaillard, qui présente justement la guillotine, piège pour une exécution capitale, et je trouve qu'il faut être gonflé pour... proposer une œuvre monographique de cet ordre-là, puisqu'on a l'intégralité. Elle était déjà exposée il y a quelque temps à la Maison Rouge. Et Je trouve que Journiac, pour moi, là, c'est idéal. C'est-à-dire, celui qui a fait les portraits pièges pour capturer l'ambiguïté de la relation entre le jeu et la construction sociale, c'est idéal. La radicalité qui n'hésite pas à dire à la Lautréamont, je fais acte de prostitution, eh bien, je trouve que cette guillotine qui vient couper, je dirais, à l'époque, parce que là, on l'a soft, c'est tout blanc. Normalement, il y a des bacs avec de la viande et on va couper de la viande et il y a... C'est une exposition interdite par la police, etc. Donc là, on a juste un reste tout propre, tout clinique. Mais en même temps, quand on a ça, je trouve que je me réjouis que dans cet espace-là, finalement, il y ait quelqu'un qui dise non avec Journiac, puisque c'est quand même le type qui dit non, parce qu'un non, c'est toujours interroger la question. Ça interroge la révolte, le non. Hein ? C'est pas dire non. Pourquoi elle dit non ? C'est l'interrogation sur la révolte. Alors moi, je trouve ça admirable. Et en plus, il y a la galerie qui va vernir ce jeudi-là, le reste de l'exposition, parce qu'il y a quelques tableaux qui montrent les portraits Action Vierge Mère. Et puis, il y a aussi les contrats prostitution qui sont présentés, Journiac, travesti en Journiac, donc toute la question du travestissement. Et ils ont édité, ce sont des fous, la galerie Gaillard sont des fous. Ils éditent une monographie sur Journiac, ça coûte 40 balles, 40 euros, achetez-la, c'est génial. Je dois dire qu'il y a toute la série de 24 heures dans la vie d'une femme ordinaire, comme moi. Et il y a un texte de Paul B. Preciado, que moi j'ai connu sous Béatrice Preciado. Le titre du texte, c'est « Introduction ». Il porte très bien son nom. Ce texte est impeccablement à sa place. Et quand vous lisez, il vous met une grande gifle. Et je trouve ça absolument exaltant.
Tout le Grand Palais a retenu son souffle pour attendre le...
Oui, mais je cherchais, figurez-vous. Non, mais c'est moi, je trouve ça...
Journiac toujours.
Toujours parce que les
corps, actif.
Voilà, comment travailler avec une dialectique qui est une manière aussi de dire entre les corps réifiés, les corps réifiants, est-ce qu'il y a un espace ? Bah oui, il y a le travesti.
Ouais, Journiac à la galerie Christophe Gaillard. Et d'ailleurs, je crois que Stéphane Corriard était jaloux parce qu'il aurait bien choisi aussi.
Ça faisait partie des possibilités, mais je l'ai laissé volontiers à Corinne Rondeau. Comme elle, je préfère aussi les stands monographiques. D'ailleurs, je voudrais signaler à Yasmine aussi le très beau stand de Krishna Reddy chez Experimenter, une galerie de Calcutta, ouais. Une artiste indienne que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à côté du secteur Lafayette. Il y a un autre très beau one-man show, c'est celui de Thomas Bayerley chez Mezzanine. Mais c'est pas de cela dont je vais vous parler. Je vais vous parler de Marian à la galerie Venus Over Manhattan. C'est une jeune galerie qui a été créée en 2012, mais par un méga collectionneur, Adam Lindman. Et il fait chaque année à la FIAC des présentations détonnantes. Il y a 2 ans, pour sa première participation, c'était autour de Bill Copley, le grand peintre américain et qui était aussi galeriste, ami des surréalistes et de Duchamp. L'an dernier, c'était les premiers Peter Saul. Et cette année, il consacre tout son stand à Marian. Né Pinchas Bernstein en 1927 et mort en 77. Alors le stand est entièrement consacré à une série exceptionnelle de 12 grandes encres de Chine sur carton, hein, 1 mètre par 80, qui ont été retrouvées à New York, qui avaient été achetées à New York à l'époque où Marian était allé vivre au Chelsea Hotel. Il arrive à New York en 62, ces encres datent de 63. Elles sont peuplées de personnages grotesques, assez sexués en général, avec un éventail de couvre-chefs de tiare, de bicorne, de tricorne, outrageusement expressionniste, carnavalesque, qui instille directement un certain malaise. Alors d'où vient ce malaise ? D'où vient cette rage ? Ben, il faut connaître la vie de Marian, qui est une vie absolument incroyable. Il y a eu une exposition en 2013 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme où il dialoguait notamment avec... Avec Combas, vous connaissez sans doute cette histoire. Donc je l'ai dit, il est né en 27. Hein, il est d'abord déporté dans un camp d'internement de la Waffen-SS. Il est ensuite laissé pour mort dans un ghetto. Ensuite, on lui tire dessus à 2 reprises. Il finit la guerre. On lui a tiré dans la tête, dans le cou. Il a une infection à la jambe. Il est estropié, mutilé. Enfin, donc il sort de la guerre. Il est tout jeune. C'est un jeune homme de même pas 20 ans, 18 ans, et en même temps totalement détruit. Il est totalement mutique à l'époque. D'ailleurs, il y a une très belle série de 9 cahiers qui sont conservés au Musée National d'Art Moderne grâce à sa veuve qui les a offerts et qu'il a fait à la demande de son psychanalyste au début des années 70 parce qu'il n'arrivait pas à parler. Donc son psychanalyste lui a dit peigné, alors dessiné. Donc il a fait ses 9 carnets qui sont absolument remarquables. Les 12 grandes encres qui sont sur le stand de Venus Over Manhattan sont une parfaite introduction, pour reprendre le terme de Corinne Rondeau, et en même temps un bréviaire, un résumé de son univers graphique obsessionnel où c'est toujours le même type de visage qui reviennent dans le même type de posture avec des accessoires. Mais il a tellement d'éléments de son vocabulaire qu'avec la combinatoire, il arrive finalement à un zoo infini, grimaçant, caustique, que quelque part, si on pouvait prendre la comparaison entre l'enfant naturel, on va dire, de Francis Bacon et de de Philip Guston. Voilà, le fils naturel de Francis Bacon et de Philip Guston.
Alors, et si pour on faire... additionne Guston et Bacon.
Et ben, ça donne Marian, un peintre absolument unique qu'on a vu avant d'ailleurs de le voir au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à la Maison Rouge dans l'exposition inaugurale où il y avait une salle et une très jolie encre dans l'exposition de la collection de Marine Karmitz. C'était donc, ça nous préparait à ce choc que sur le stand de Venus Over Manhattan, ces 12 grandes encres nous livrent. Je signale par ailleurs que Marian est un sublime peintre, un très grand coloriste. On ne voit pas ça sur le stand. Il faut demander à la charmante personne qui s'en occupe d'ouvrir la porte de la minuscule réserve où il y a une peinture de 1967 sur fond jaune qui est sublime.
Bon, de quoi on va parler avec la fermeture de la Maison Rouge ?
Eh ben que, il est exposé ensuite chez Christo Gaï, hein, votre Marian.
C'est vrai ?
En 2019.
Ah,
c'est quand même incroyable.
Connivence.
J'ai appris ça tout à l'heure. Je ne savais pas.
Non, mais connivence spirituelle, de goût. C'est pour ça que vous lui avez attrapé le bras ?
Oui.
Bon, vous voulez parler de Journac encore un peu ? Non, ça va aller. Moi, je voudrais savoir, comme il nous reste 2 minutes, allez, 3, pour bien faire. Quand même, Stéphane Correa, vous avez fait un tour de cette foire internationale d'art contemporain. Vous avez eu votre choix avant ?
Non, j'ai choisi ici. D'ailleurs, j'aurais pu
donc
parler.
Vous avez fait un grand tour.
Alors, j'ai fait un tour un peu plus long que celui d'Yasmin Youssi. J'en ai vu pourtant que la moitié. J'ai pas été, à vrai dire, bluffé par la qualité générale, notamment des grosses galeries que je trouve un peu paresseuses à la FIAC, à l'exception d'Other Envirt, qui est effectivement, en dehors de mettre deux tableaux, deux grandes peintures de Philip Guston, ce qui déjà est remarquable en soi, a fait un mur qui est sublime avec Hans Bellmer, Louise Bourgeois et une sculpture d'Alina Shaposhnikov. À mon avis, c'est un des climax de la FIAC.
Oh, que de mots anglais. C'est magnifique. Mais donc, pas l'enthousiasme de Yasmine qui trouve que c'est un particulièrement bon cru cette année pour vous.
Mais moi, je ne suis pas comme Yasmine. J'ai même vu des artistes indiens. Donc,
Dieu merci. Dieu merci. Non, les Asiatiques sont plus représentés que les Africains et les Arabes.
Ça, c'est vrai. On arrive quand même à...
Cherchez-les, vous me direz.
Alors, mais... Ah, on a lancé l'appel. Hein.
On a lancé l'appel.
Méfiez-vous, ça pourrait peut-être arriver. 19h55, moi, j'ai un choix. Je me suis dit, est-ce que je regarde ? Moi, est-ce que je vais quand même présenter ce que j'ai vu ? J'ai fait un choix tellement, tellement simple. C'est la galerie. Hop, si je retrouve le nom, je suis en train de chercher dans mon appareil photo, ce qui est très mal. Metro Pictures. Mais c'est la galerie Metro Pictures.
Pas le Cindy Sherman, quand même.
Non.
Vous me rassurez.
Il y a un Robert Longo. Il y en a d'ailleurs un autre. Il y a un Robert Longo assez récent, 2017, où il fait il reprend des classiques de la peinture passés au rayon X.
Ouais.
Alors, il y en a un de Manet qui est dans une autre galerie. Et il y en a un sur le stand Metro Pictures qui est quand même absolument miraculeux. Alors, j'ai eu un grand coup
Marianne
de cœur pour
Goodman
Robert Longo.
Aussi, moi, j'ai trouvé, avait un très beau stand. Oula von Brandenburg, chez Art Concept.
Il y a trois aquarelles
avec des animaux qui sont superbes.
Bon, il y a de quoi faire encore.
Il y a de quoi faire. Il y a un très bel Imeldorf chez Michael Werner.
Bon.
Non, il y a quand même, de quoi faire.
Il y a de quoi faire à la FIAC. Ça ouvre demain au grand public. S'il faut payer le prix de l'entrée quand même. On a fait gagner des places, ça tombe bien, hier. Mais c'est ouvert jusqu'à dimanche. Mais on ne peut pas faire gagner chaque soir des places pour la FIAC, parce que sinon ce serait pas drôle. Donc ce soir, ce sera un autre lot. Et c'est Sarah Dion d'abord qui va nous rappeler donc la question du jeu d'hier au soir et sa réponse.
La question était: combien de pays sont représentés cette année à l'occasion de la FIAC ?
Et alors ?
25.
25. C'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup.
C'est une information très intéressante. 25 pays seulement représentés à la FIAC.
Vous comptez tous les Européens, il n'en reste plus beaucoup d'étrangers finalement.
Oui, on avait compris. Je m'étais fait la même réflexion. Allez, ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour aller voir les nouveaux portraits, les 6 portraits Excel d'Alain Cavalier qui sont sortis ce jour sur les écrans. Quelle est la question, Sarah ?
Quel était le nom de la précédente série documentaire d'Alain Cavalier constituée de portraits ?
Eh bien, si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et puis comme vous passez par là, vous abonner au podcast avec le retour d'Hélène Delprat qui ne nage pas cette fois. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la bande dessinée. C'est des stands de bande dessinée à la FIAC, oui sans doute. Comment ça non?
Bah non.
Non?
Bah non.
Ça pourrait. Ça...
Il doit y avoir même un stand de chocolat, sinon.
Bon, et ça, il doit y avoir, par contre.
Il y a un stand de vache qui rit.
On sera en compagnie de Catherine Robin, Joseph Gosne et Antoine Guillot à notre sommaire. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris chez Monsieur Toussaint Louverture et les grands espaces de Catherine Meurice chez Dargo, les rigoles de Brecht Evans chez Actes Sud BD et puis le coup de cœur de Catherine Robin. Ce sera pour Heimat de Nora Krug chez Gallimard BD.